J'aimerais relire ce verset que nous a lu Luc. Seulement, au point où nous sommes parvenus, avançons ensemble. Combien ? C'est ce dont je souhaitais parler avec vous ce matin. Le 6 mai prochain, la France saura qui est son président de la République pour les 5 prochaines années. Après avoir voté, chacun rentrera chez lui. Une majorité sera heureuse d'avoir vu son candidat remporter la victoire. Une minorité, quant à elle, sera déçue de devoir faire avec celui qu'elle voulait éviter. Mais il me semble que si on réorganisait le même scrutin le lendemain, il donnerait le même résultat. Chacun sûr de lui, camperait sur sa position. Le 11 mars prochain, notre Église aura son Assemblée Générale ordinaire, où nous aurons, nous aussi, pris des décisions par vote. Qu'est-ce qui nous différencie du processus démocratique ordinaire? Est-ce que nous nous séparerons, nous aussi, chacun de notre côté, à l'issue de cette réunion? Je vous propose d'explorer ce sujet à travers une prédication un peu différente ce matin. Après avoir comparé les différentes formes d'organisation de l'Église, nous proposerons une façon de vivre nos décisions ensemble. Tout d'abord, il est bon de rappeler que la Bible ne définit pas de structure d'Église. Jésus ne nous a pas donné dans son enseignement les consignes sur comment nous organiser. Faut-il un pasteur? Comment le culte doit-il se dérouler? Faut-il une ou deux associations pour gérer nos finances? Si l'Ancien Testament définit très précisément toute l'organisation religieuse, Jésus ne nous a laissé que très peu de directives et nous jouissons d'une grande liberté dans notre organisation. Nous pouvons donc faire preuve de créativité dans nos structures. Mais pour nous guider dans cette créativité, nous trouvons tout de même dans le Nouveau Testament, en particulier dans les Actes des Apôtres ou dans les Épîtres, de nombreux témoignages de ce qu'a fait l'Église primitive. Nous avons aussi les principes fondamentaux de l'Évangile qui nous mettent sur la bonne voie. Alors, qui décide dans l'Église? La plupart des églises chrétiennes sont d'accord pour dire que c'est Christ qui est à la tête de son Église. Colossiens, chapitre 1, verset 18, nous dit que « Il, Jésus-Christ, il est lui-même la tête de son corps, qui est l'Église. » L'Église n'est donc ni une autocratie, où le pouvoir est exercé par un seul de façon autoritaire, ni une oligarchie, où le pouvoir est confié à quelques-uns, ni même une démocratie, où le pouvoir est confié au peuple. C'est une christocratie. L'autorité appartient à Jésus-Christ. Seulement, depuis son ascension et jusqu'à son retour, Jésus-Christ n'est pas présent parmi nous en personne. Il ne s'exprime pas intelligiblement de la façon dont je peux m'exprimer à vous en ce moment. Nous sommes donc face à cette question. Concrètement, qui décide, qui discerne la volonté du Christ? Et pour répondre à cette question, l'Église a imaginé trois grands modèles. Le premier modèle d'organisation est le modèle épiscopal. L'Église catholique en est la version la plus aboutie. Dans cette organisation, l'évêque exerce l'autorité sur l'Église. Cette autorité, il la reçoit dans la succession apostolique. Les apôtres qui ont reçu leur autorité de Jésus ont transmis cette autorité à des évêques qui l'ont transmise à leurs successeurs, etc., jusqu'à aujourd'hui. L'évêque exerce une autorité forte sur l'Église ou sur les églises qui lui sont confiées. C'est lui qui prend la plupart des décisions. S'il a la charge de plusieurs églises, il les visite régulièrement, règle les problèmes, met en place les responsables. Il lui arrive de consulter la communauté locale, mais c'est lui qui, au final, prend les décisions. Il est considéré comme l'homme de Dieu, le responsable de la vision, le berger chargé de conduire et gouverner l'Église. Selon la théorie catholique, l'évêque est indispensable à l'Église. Il ne peut y avoir d'Église s'il n'y a pas d'évêque. Les catholiques ne sont pas seuls à avoir cette organisation. L'Église orthodoxe, l'Église anglicane ou certaines unions méthodistes suivent également ces principes. Cette organisation veut s'appuyer sur la Bible. Elle note par exemple le rôle très fort qu'avait l'apôtre Jacques à l'Église de Jérusalem. Plus généralement, elle met en avant le rôle des apôtres qui exerçaient une autorité très forte sur les églises. Cette organisation a un gros avantage, c'est l'efficacité. Le partage de l'autorité prend du temps et tout confier à un seul est très efficace. Mais l'inconvénient de cette organisation, c'est qu'elle favorise les dérives autoritaires. Et on retrouve des exemples de telles dérives dès l'Église primitive, avec Diotrephe, qui voulait limiter l'influence des apôtres dans son Église. On retrouve ça dans 3 Jean. Par ailleurs, le concept de succession apostolique est discuté. Les apôtres avaient un rôle unique, celui de transmettre l'enseignement de Jésus. Jésus qu'ils avaient connu et qu'ils avaient vu personnellement. Ce ministère est aujourd'hui terminé. Cet enseignement, ils nous l'ont confié à travers le Nouveau Testament. Et c'est sur ce Nouveau Testament que repose l'apostolicité de l'Église. Le second modèle d'organisation est appelé presbytérien. Ici, l'Église doit être dirigée par un groupe et non par un individu unique, évêque ou pasteur. Ce sont donc des anciens qui sont collégialement responsables de l'Église. Ces églises ont parfois un pasteur salarié, il est alors un des anciens parmi les autres. Cette organisation est parfois complétée par un synode. Des délégués des églises se retrouvent pour parler des affaires de leurs églises. Ils peuvent être amenés à prendre des décisions et ces décisions auront autorité sur les églises. Il y a donc un double niveau d'autorité au niveau local. Un collège d'anciens, et au niveau régional, un synode. On parle de système presbytéro-synodal. Cette organisation met en valeur le rôle joué par les anciens dans le Nouveau Testament. En effet, en le lisant, vous remarquerez que quand on parle d'une église, les anciens apparaissent presque toujours au pluriel. Les premières communautés chrétiennes semblent s'être organisées selon le modèle des synagogues, avec un collège d'anciens. Avec cette organisation, on ne veut pas seulement se déclarer en communion, on cherche à vivre concrètement cette communion. Mais si cette organisation introduit effectivement plus de communion, en mettant plusieurs anciens, elle semble sous-estimer le rôle de toute l'Église. On lit dans le Nouveau Testament que l'Église... Toute l'Église participait aux prises de décision, au choix des ministères ou à l'exercice de la discipline. Ce modèle introduit une plus grande part de la communauté avec plusieurs anciens, mais elle semble se méfier un peu d'elle. Et on arrive ainsi à la troisième forme d'organisation, le congrégationalisme. Cette organisation affirme que l'Église locale est pleinement Église, à partir du moment où 2 ou 3 chrétiens se réunissent pour confesser leur foi à travers la prédication, la prière, la célébration de la scène, le baptême des croyants, la louange, les repas fraternels, etc. C'est Jésus qui l'a dit. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et j'ajouterai, et à ce moment-là, l'Esprit les constitue en Église. L'Église locale est donc pleinement Église. Et l'autorité du Christ s'exprime à travers l'ensemble de la communauté, pas juste un seul ou quelques-uns. Elle est autonome pour se gouverner, pour célébrer le culte, administrer les sacrements, exercer la discipline, reconnaître les vocations, discerner les dons, etc. On parle parfois de mode démocratique de gouvernement, mais ce n'est pas une démocratie, car elle est appelée à discerner la volonté de Dieu. Nous reviendrons plus tard sur comment vivre ce discernement concrètement. On peut se poser la question, quelle est la différence avec les autres formes d'organisation? Si une église a un pasteur, qu'est-ce qui la différencie du modèle épiscopal? Si c'est un conseil qui s'en occupe, n'avons-nous pas un modèle presbytérien? La Bible affirme que tous les croyants sont égaux, mais que tous ne sont pas identiques. C'est ce que Paul explique avec sa métaphore du corps, où chaque membre a un rôle différent, mais où tous sont nécessaires. Le fait que nous soyons tous égaux n'exclut pas que nous ayons besoin de ministères particuliers pour la direction, par exemple. Il faut alors trouver l'articulation entre quelques-uns qui ont reçu un ministère particulier et tous qui doivent prendre des décisions. Présentée comme ça, cette organisation congrégationaliste peut paraître idéale. Elle a néanmoins quelques inconvénients. Prendre des décisions ensemble requiert de la patience et du temps qui peuvent être vécus comme une perte d'efficacité. Il existe aussi un réel risque de manipulation. Les suggestions incessantes, pression financière, rétention d'informations ou menace de démission, ça arrive. Mais choisir ce modèle d'organisation, même si nous ne sommes pas parfaits, encore sujets au péché, ce modèle d'organisation, c'est l'occasion de vivre concrètement ce que nous croyons et de le vivre à travers nos structures. Ce choix d'organisation, c'est celui qui a été fait par les églises baptistes. Pour ceux qui s'en souviennent, Samuel nous avait expliqué il y a quelques années les deux grands points qui caractérisent les baptistes. Le baptême, qui doit être administré par immersion et sur confession de foi, et le congrégationalisme. Vous savez certainement que nous faisons partie d'une fédération d'églises, la Fédération des Églises Évangéliques Baptistes. Et pour illustrer ce choix du congrégationalisme, j'aimerais vous lire des extraits des textes fondamentaux de notre fédération. Tout d'abord, les principes ecclésiastiques. L'Église locale, dans sa soumission à son chef Jésus-Christ, doit gérer elle-même ses propres affaires. Le conseil traite les affaires pour lesquelles l'Église l'a mandaté. Toute autre décision proposée par le conseil ou en concertation avec lui doit être prise par l'assemblée de l'Église en veillant à sauvegarder sa communion. Un autre texte, résolution sur l'orientation de nos églises. Chaque église locale est autonome et indépendante, tout en étant cependant en relation libre, fraternelle et affective avec les autres églises. L'église n'a d'autre chef que Jésus-Christ. Celui-ci exprime sa volonté et ses directives dans la communauté tout entière, et c'est l'église qui l'interprète. L'église s'efforce à travers ses faiblesses de se laisser conduire par cette volonté. Nous croyons à la complète et absolue égalité spirituelle de tous les croyants. C'est pourquoi les décisions de l'Église, cherchant à interpréter la volonté de son Seigneur, ne peuvent être prises qu'au cours d'un vote à la majorité des voix. Je parlais d'articuler ce que nous croyons avec nos structures. En voici un exemple, basé sur ce que nous croyons, les structures de notre fédération. Une fois qu'on a dit ça, c'est bien, mais concrètement, comment fait-on ? Nous avons vu la limite du vote démocratique. Comment faire pour que nos assemblées générales ne soient pas une assemblée de copropriétaires ? Comment allons-nous faire pour discerner ensemble la volonté de Dieu ? Tout d'abord, il faut nous mettre d'accord sur ce que nous cherchons. Pour ceci, j'aimerais vous lire ce qu'en dit Louis Schweitzer, professeur de théologie. Il s'agit de discerner ensemble, en Église, la volonté de Dieu pour la communauté. Cela suppose plusieurs choses. Chacun peut avoir déjà au départ une conviction, et c'est le plus fréquent. Discerner ensemble implique que l'on reconnaisse que sa propre conviction n'est pas définitive et que c'est ensemble qu'une solution doit être trouvée. La volonté de Dieu est ce qui est bon, ce qui est de meilleur pour la communauté en ce moment. Il pourrait sans doute y avoir d'autres solutions, d'autres voies légitimes. Il y en aura peut-être dans le futur. La question n'est pas de savoir qui a raison, ni ce qui est juste ou vrai, mais ce qui est bon pour l'Église aujourd'hui. Une solution ou un projet excellent en eux-mêmes peuvent ne pas être adaptés à la situation. Il faut que chacun soit convaincu que cette recherche est un acte spirituel. Une assemblée de ce type est, pour l'Église, exactement aussi importante devant Dieu que le culte, et doit être vécue d'une manière semblable. Elle est une forme d'écoute de la volonté de Dieu au travers des frères et sœurs. Tout est dit. Nous sommes appelés à écouter, à comprendre, à peser les arguments et les points de vue de chacun. Nous ne sommes pas là uniquement pour exposer notre point de vue, mais aussi pour évaluer celui des autres. Nous ne sommes pas là pour trouver la bonne solution, mais celle qui convient le mieux pour nous, pour aujourd'hui. Et pour cela, eh bien, il faut prendre du temps pour s'écouter. On pourra s'écouter de façon classique, où chacun de son tour, chacun dira à son tour ce qu'il pense sur le sujet. Il faudra éviter les débats où gagne celui qui est le plus éloquent. On peut aussi s'écouter par un vote indicatif où chacun exprime sa préférence personnelle. Un vote qui n'engage à rien, mais qui permet d'avoir une vision d'ensemble de la vie de l'Église. Dans ces moments d'échange, tous sont utiles. Nous l'avons dit, tous sont égaux et tous n'ont pas le même rôle. Nous avons discerné parmi nous des dons particuliers, pasteurs, anciens, diacres, enseignants. Si nous reconnaissons ces dons, c'est le moment de vivre cette reconnaissance et de prester aux personnes qui les ont une écoute particulière. Mais tous ont leur place. Toutes les idées gagneront à être exprimées. Tous les avis gagneront à être entendus. Et puis, il y a ceux qui ont peu d'idées sur la question. Ceux qui pensent ne pas être légitimes pour décider. Ceux-là aussi ont une place. De par leur recul, ils aideront les autres à faire le tri. Lors de ces prises de décision, seuls les membres inscrits votent. Mais il est bon d'écouter tout le monde, non-membres y compris. En effet, les non-membres participent aussi à la vie de notre communauté et ils ne sont pas moins remplis de l'esprit parce qu'ils ne sont pas sur la liste des membres. Je disais qu'il fallait prendre du temps pour s'écouter. Il en faut aussi pour prier. Il faut prendre ce temps de prière avant les échanges, éventuellement pendant, et aussi après. Car si la décision est importante, nous nous laisserons certainement un temps de réflexion entre les échanges et la prise de décision. Prions donc pour remettre nos idées devant Dieu, pour les examiner devant lui. Prions également pour lui confier les idées des autres que nous avons entendues. Prions pour qu'il nous donne la sagesse, qu'il la donne à toute notre assemblée, à commencer par nous-mêmes. Que son esprit fasse le tri en nous, qu'il nous aide à nous soumettre les uns aux autres, qu'il nous prépare à accepter la décision qui ne sera pas forcément notre préférence. Ensuite, nous pourrons prendre la décision par un vote en nous souvenant de ce qu'on recherche, la solution qui convient le mieux pour le moment. Dans ce vote, chacun ne s'exprime plus pour soi, mais pour l'Église. Chacun doit prendre en compte le bien commun, ce que désirent les autres, en particulier les faibles, ceux qui ne s'expriment pas forcément fort, ceux qui seront le plus touchés par la décision, qui ont peut-être du mal à la vivre. À ce moment-là, la question peut-être devenir: est-ce que je le veux au point de l'imposer aux autres? Ou bien, est-ce que je ne le veux pas au point d'en priver les autres? Exposé comme ça, ça peut paraître lourd, paralysant, mais soyons certains que l'Esprit nous conduit vers la bonne décision, même à travers notre péché. N'ayons donc pas peur. En procédant ainsi, on peut être tenté de vouloir rechercher l'unanimité. L'unanimité, c'est une belle chose, mais n'oublions pas ce que nous avons lu dans les principes ecclésiastiques. L'Église s'efforce, à travers ses faiblesses, de se laisser conduire par la volonté de Dieu. À travers ses faiblesses. Ne sous-estimons pas nos faiblesses. Ne sous-estimons pas les faiblesses de notre condition. Le discernement n'est pas simple, sûr, automatique. Il suffit de lire le Nouveau Testament pour voir que des personnes de grande qualité spirituelle peuvent être en profond désaccord. À trop vouloir l'unanimité, on risque d'empêcher les gens de s'exprimer par culpabilité. N'oublions pas qu'il faut que chacun s'exprime et qu'il s'exprime sans crainte. Ensuite, il sera temps, de vivre cette décision. Si notre préférence n'a pas été suivie, il faudra la vivre en acceptant dans la paix la décision prise. Ce sera l'occasion de vivre la soumission mutuelle à laquelle nous invite la Bible quand elle nous dit « Soumettez-vous les uns aux autres ». Si notre préférence a été suivie, nous avons le devoir de prendre soin de la minorité, de l'accompagner pour qu'elle vive bien, lui montrer que ses réserves ont été entendues et qu'on fera tout pour rendre cette décision bonne pour toute l'Église. Cette décision, c'est le moment de vivre l'amour tel que nous le demande Jésus et de nous servir de cette décision prise ensemble pour continuer à avancer ensemble pour le Christ, notre chef. Le sujet est vaste et le temps nous manque pour aller plus loin. Nous n'avons pas abordé les relations avec notre fédération, ni approfondi cette articulation entre le tous et quelques-uns. Mais plus qu'un sujet à approfondir en chair de façon théorique, c'est surtout un sujet à vivre ensemble. Jésus nous dit que c'est à la façon dont nous vivons ensemble, à l'amour concret que nous avons les uns pour les autres, que nous montrerons que nous lui appartenons réellement. Nos prises de décision font partie de cette vie concrète et doivent être aussi l'occasion de montrer cet amour, notre différence. Nous aurons de nombreuses occasions de le faire, à commencer dans 2 semaines par notre Assemblée générale. Qu'il nous accompagne, que notre Seigneur nous accompagne dans nos prises de décision, les prochaines comme celles à venir. Amen.